Et ce que je dis. Nous allons prier parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Donc prions ensemble. Notre Père, combien te louons pour ta parole. Merci parce qu'elle est ta vérité. Merci parce qu'elle est pertinente pour nous aujourd'hui en Belgique. Et nous te prions de nous parler puissamment à travers ce chapitre de Daniel 1, que nous soyons équipés pour vivre pour toi dans l'exil. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Comment trouvez-vous le fait d'être chrétien en Belgique? Si vous êtes chrétien, si vous avez placé votre confiance en Jésus, est-ce que vous trouvez que c'est facile, plutôt facile, de vivre sa foi en Belgique, ou plutôt difficile? Donc, comparé à Kosovo, là où il y a un énorme pourcentage de la population qui est musulmane, on peut rester, mais c'est facile ici. C'est facile comparé à cela, la pression qu'il y a là-bas, l'interdiction de parler de Jésus, de faire des disciples. On peut rester, mais ici, on a la vie facile en tant que chrétien. Et dans un sens, c'est vrai. On ne subit pas la persécution que beaucoup d'autres chrétiens dans le monde subissent. Mais, en même temps, ce n'est pas pour autant facile de vivre la foi chrétienne ici. Ce n'est pas très bien vu d'être protestant évangélique dans le 21e siècle. Si vous allez demain dans votre bureau et vous dites aux gens, voilà, moi je suis chrétien, je suis fier de l'être, est-ce que je pouvais vous parler de ma foi pendant un peu de temps? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Ils vont vous regarder comme si vous étiez un ovni, et ils vont vous fermer la porte. Et ils ne veulent pas entendre parler de votre foi. Ce n'est pas si facile que cela d'être chrétien en Belgique. Et ça, je pense que ça devient de plus en plus difficile, avec la pression venant des médias, qui s'opposent à toute idée de moralité biblique, concernant le mariage comme étant entre un homme et une femme, concernant le genre que Dieu nous a donné, soit un homme, soit une femme. Si on ose dire de telles choses, on va nous massacrer. Pas physiquement, mais socialement, dans la société. Donc c'est difficile d'être chrétien, je pense. Et donc c'est bien que nous étudions les livres de Daniel, cette nouvelle série de prédications vraiment pertinente pour nous en Belgique, car ça parle de l'expérience de Daniel et de ses amis en exil. Il n'était pas facile pour eux de rester fidèles à Dieu, ce n'est pas facile pour nous de rester fidèles à nous non plus. Et ce livre va nous parler de qui est Dieu, ce Dieu qui maîtrise toutes choses, qui règne sur son monde. Et c'est seulement en connaissant ce Dieu que nous pourrons vivre de manière courageuse pour lui. C'est ça l'argument de ce livre. Seulement en connaissant notre Dieu, on pourra vivre pour lui pendant notre exil ici sur terre. Et ce livre sera très utile si vous êtes là et vous n'êtes pas encore chrétien, vous êtes en recherche, vous voulez savoir, mais à quoi ressemble la vie chrétienne finalement? Est-ce que c'est juste le fait de venir à l'église et de chanter ensemble? Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Non, il y a beaucoup plus. Et nous allons voir ça ensemble. Ben, le livre commence comme un bon roman, en plantant le décor. Où sommes-nous au début de l'histoire et qu'est-ce qui se passe? Mais nous sommes 550 ans avant la venue de Jésus, lors de l'exil de Juda. Et nous voyons une crise au verset 1 et 2. Lisons ces versets ensemble. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc, si on se situe dans l'histoire de la Bible, Dieu a fait une promesse à Abraham, il y a très très longtemps, disant, je vais te donner un pays magnifique, le pays promis. Plus loin dans l'histoire, Dieu a donné à son peuple une loi à laquelle il devait obéir. Si le peuple obéissait à la loi, il allait être béni par Dieu. Mais si le peuple désobéissait à la loi, il serait éjecté du pays promis. Avec Josué, il entre dans le pays promis, avec la conquête de Canaan. Ils sont dans le pays promis, mais ils rejettent Dieu. Roi après roi, rejette Dieu, ne obéit pas à Dieu. Et donc, dans le jugement de Dieu, ils sont expulsés. Le roi babylonien vient assiéger la ville capitale, Jérusalem. Cela représente une crise énorme pour le peuple de Dieu. Vaincus par un autre roi, ils sont déportés du pays promis, comme on a vu sur la carte, jusqu'à Babylone. Et nous voyons en verset 2 que le roi de Babylone a emporté les ustensiles de la maison de Dieu et les mis dans la maison du trésor de son Dieu. Ça, c'est des ustensiles qu'on utilisait avant pour adorer le vrai Dieu dans le temple. Et maintenant, ils sont dans le musée à Babylone, à la gloire du Dieu de Babylone. On voit bien qu'il s'agit d'une crise pour le peuple de Dieu. Mais cela semble être un échec cuisant pour Dieu aussi. Qui est le plus puissant, le Dieu d'Israël ou bien le Dieu de Babylone? Évidemment, il semble que c'est le Dieu de Babylone qui est le plus fort. Et au verset 3, nous voyons que le roi prend avec lui les meilleurs hommes de la population, parmi lesquels se trouvent Daniel, Anania, Michael et Azaria. Et on pense que ces hommes étaient ados à l'époque. Parfois, on pense Daniel plus âgé, mais il était ado lorsqu'il est parti de son pays. Donc, un ado croyant en Dieu, le Dieu de la Bible, et il part loin de chez lui. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe par la tête durant ce long voyage durant le désert. Il est sérieux, le temple, la ville de David, le roi promis, et il se dirige vers un pays où on adore des autres dieux, où on se moque du Dieu d'Israël. Crise pour le peuple de Dieu. Crise pour Dieu aussi, il semblerait. Trop faible pour résister à la toute-puissance du roi Nebuchadnezzar et son Dieu. Mais au verset 2, nous voyons un détail qui nous rassure, que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Verset 2, le Seigneur livra entre les mains du roi Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda. Nous voyons ici que Dieu reste aux commandes. Loin d'être un échec cuisant pour Dieu, c'est lui qui est derrière ces événements. C'est dans son plan souverain que les Judéens se trouvent en exil. Il a planifié l'exil comme un jugement contre son peuple qui a été infidèle. Même s'il semble que Dieu a perdu le contrôle, ce n'est pas vraiment le cas. Dieu reste aux commandes de son monde. Mais quelle sera l'expérience des exilés une fois sur place? Au verset 3 à 7, nous voyons une reprogrammation, l'idée de prendre quelqu'un et d'enlever tout ce qui est unique dans le background, leur arrière-plan, tout ce qui leur est cher, et les enseigner quelque chose de nouveau. C'est ça ce qui se passe ici. Il y a 3 ans de formation, on pourrait appeler ça l'université de Babylone. Ils entrent en première année, ils sont contents d'y être, et à la fin, il y a une place dans la cour royale. On pourrait imaginer être fonctionnaire dans l'Union européenne à la fin. C'est ce genre de poste. Et le roi veut les meilleurs hommes et veut ceux qui sont loyaux à lui. Dans les 3 ans de formation, une reprogrammation pour les exilés. Ils doivent oublier leur ancienne identité, leur dieu, leur religion. Ils doivent adopter une nouvelle identité, celle d'un citoyen loyal de Babylone et un serviteur loyal des dieux de Babylone. Verset 4, regardez ce qui figure au curriculum. Verset 4, à la fin, il enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Dans les cours de langue, il y en a parmi nous qui sont passés par là. Mon épouse a fait l'Alliance française ici, à Bruxelles peut-être. Ici, c'est l'Alliance babylonienne. Des cours intensifs pour apprendre la langue à ces exilés. Ils imprègnent toutes les expressions. Et aussi la littérature du pays. Tous les mythes, des légendes, toutes les histoires religieuses, tout ce qu'il y a sur les dieux, les récits de la création, comment ils pensent que Marduk, le dieu de Babylone, a créé le monde. Tout concernant les dieux de Babylone. Pendant 3 ans, Daniel et ses amis seront bombardés d'une propagande babylonienne. Et à un moment donné, ils pourraient être tentés de juste craquer et dire « Oui, ok, j'accepte. J'accepte vos dieux. » Mais la formation que propose le roi de Babylone n'est pas seulement intimidante, elle est aussi tentante. Regardez verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans. Pour des Judéens qui ont vécu un siège terrible à Jérusalem, ils ont connu la famine. Quel changement! Maintenant, ils ont droit à la nourriture préparée par le chef royal. Ce serait, j'imagine, l'équivalent de la cuisine préparée pour Dawn ou Katerina dans notre église, excellente comme cuisine. Et la dernière partie de la reprogrammation était peut-être la plus dure. Babylone a changé les prénoms de nos amis. Verset 6, et 7. Il avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michael et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michael, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Changer de prénom peut être un peu difficile de s'habituer au nouveau, mais rien de grave, on se dit, mais ces prénoms sont peut-être mieux connus en Babylone, donc c'est quoi le souci? Il y a plus en jeu ici. Les prénoms de Daniel et de ses amis avaient un sens en lien avec le Dieu d'Israël. Et les nouveaux prénoms faisaient référence plutôt au Dieu païen de Babylone. Daniel veut dire « Dieu aimant juge » et son nouveau nom veut dire que Bel te protège, Bel, le Dieu des Babyloniens. Anania, le Seigneur est miséricordieux, son nouveau prénom, le commandement d'Aku, un autre Dieu babylonien. Michael, qui est comme Dieu? Dieu est unique, son nouveau prénom. Qui est comme Aku, le Dieu de Babylone? Abednego, ce qui veut dire serviteur, Azaria, ce qui veut dire serviteur aide, le Seigneur aide, pardon, on va y arriver. Azaria, le Seigneur aide, et c'est Abednego, serviteur de Nebo, le Dieu de la lune des Babyloniens. Quel changement! Ils doivent oublier leur identité, tout ce qui parle de leur Dieu dans leur vie. Ils ne devaient surtout pas parler de leur prénom ancien autour d'eux. Ta religion n'a pas sa place ici dans le domaine public, le retendit. Daniel et ses amis subissent une épreuve de reprogrammation. Babylone voulait éradiquer leur ancienne foi et les assimiler petit à petit à la vie de Babylone. Mais comment est-ce qu'ils vont vivre ça, ces jeunes ados croyants en Dieu d'Israël? Va-t-il oublier son identité? Nous voyons ensuite la résistance de Daniel et ses amis, versets 8 à 16. Nous voyons verset 8 que Daniel décide qu'il ne veut pas se souiller, se compromettre dans sa nouvelle vie. Il ne veut pas laisser sa foi en Israël. Il veut croire en Dieu jusqu'au bout. Et donc il prend la ferme décision que ce n'est pas approprié pour lui de manger, de boire ce que le roi lui propose. Pourquoi? Certains pensent que c'est à cause des lois rituelles concernant les aliments dans la loi de Moïse, mais ça n'explique pas pourquoi il refuse le vin aussi. C'est seulement la viande qui était en question dans la Lévitique. D'autres disent que c'est parce que la viande avait sans doute été sacrifiée aux idoles, mais sans doute les légumes aussi. On faisait des cérémonies païennes aussi concernant les autres types de nourriture. Donc on ne sait pas pourquoi il a refusé. Mais il a fixé une limite. Il est jusque-là, mais pas plus loin que cela. J'accepte beaucoup de choses, mais pas plus que cela. Et la raison la plus probable, c'est que manger ce que le roi mange allait les rendre redevables envers ce dernier. Ça risquait d'engendrer une loyauté sans question envers le roi. Un peu comme si le patron te demande de se voir et il dit que voilà, ton salaire va augmenter. Et tu dis, waouh, c'est chouette ça, c'est bien, ça va augmenter. De combien? Il dit, de beaucoup. Il dit, c'est chouette ça, merci. Et puis la semaine suivante, il te demande de truquer les chiffres dans l'entreprise. On se sent obligé, n'est-ce pas? On a reçu sa bienveillance et maintenant on se sent obligé. Daniel dit non. Moi, je ne veux pas être dans ce genre de relation avec le roi babylonien. Je veux être capable de dire non à cause de ma foi. Donc, il a fixé la limite ici. Et on va voir plus loin dans l'histoire, ça le permet par la suite de ne pas entrer dans la religion des Babyloniens, de résister, même s'il était menacé de mort. Et donc, il demande à Ashpenaz, celui qui gérait l'école de formation des fonctionnaires, et au verset 9, Dieu lui fit trouver faveur et grâce devant lui. Mais en lisant le verset 10, nous n'avons pas l'impression qu'il a trouvé grâce, parce qu'il refuse sa demande. Lisons le verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Il dit, « Non, trop dangereux. Là, le roi va remarquer qu'il te manque des forces. Il va savoir que tu n'as pas mangé de sa nourriture. Il va me tuer. Pas possible. Je crains pour ma vie. » Mais au verset 11, nous voyons que Daniel va demander à l'intendant, qui avait la responsabilité de Daniel et ses amis. Et l'intendant a accepté. Peut-être Ashpenaz a dit haut et fort, « Non, pas possible, pas du tout, exclu, tout à fait. » Mais va voir l'intendant, il va peut-être dire oui. Peut-être il a dit ça comme ça. Comme si lorsqu'on demande à l'école le directeur, il dit, « Non, je ne pourrai jamais autoriser vos enfants à manquer des journées scolaires pour aller en vacances. Pas possible, » il dit à haute voix lorsque les autres parents passent. Et puis il dit, « Demandez à la maîtresse. » Peut-être elle va dire oui. C'est peut-être ce genre d'histoire qui est en train de se passer. Donc Dieu lui fait trouver grâce à ses yeux. Et donc Daniel propose à l'intendant une période d'essai, 10 jours. 10 jours sans les mets succulents et seulement avec des légumes, des grains secs, des aliments de ce genre. Et à la fin des 10 jours, s'ils sont en mauvaise forme, ils mangeraient de nouveau la nourriture du roi. L'intendant accepte et à la fin des 10 jours, nous voyons le résultat, verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait les légumes. Ils étaient même en meilleure forme que tous les autres qui mangeaient les plats de haute cuisine que mangeait le roi. En passant, ce n'est pas ici une leçon sur les bienfaits d'un régime végétarien ou végétalien. Le verset 15 est une surprise, plutôt, je pense. Dieu a récompensé leur décision de lui rester fidèle. Ils ne se sont pas assimilés à tous égards à la culture babylonienne. Ils ont fixé des limites. Et Dieu a honoré cela. Et à la fin des 3 ans, comment seraient les résultats? Nous voyons cela au verset 17 à 21. La réussite en exil. À la fin des 3 ans, le bulletin qu'ils reçoivent est excellent. Verset 18, lisons cela. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta au roi. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Ils réussissent le concours pour devenir fonctionnaires babyloniens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus justes que les autres, plus brillants, parce que les parents leur avaient enseigné les calculs dès le plus jeune âge? Non. Le verset 17 nous explique pourquoi. Verset 17, « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. » Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les sens. C'est Dieu qui a donné la capacité à ces 4 pour pouvoir accéder à la cour royale de Babylone, parce que c'était dans le plan de Dieu que Daniel et ses amis soient aux côtés du roi Nabucodonosor. Pour la suite, Dieu avait ses plans pour ces 4. Et à travers eux, le roi sera touché par le message de la foi en Dieu. Et selon le verset 21, ces 4 étaient même plus brillants que tous ceux qui avaient grandi à Babylone et qui invoquaient des dieux babyloniens. 10 fois supérieurs, nous dit le verset 20. Et le dernier verset du chapitre montre à la fin, verset 21, que Dieu n'a pas du tout perdu contrôle dans la situation. Il maîtrisait toutes choses. Verset 21, « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » Donc Daniel a été fonctionnaire jusqu'au moment où Cyrus, le roi de Perse, a vaincu le royaume de Babylone. Babylone, dit ce verset, va tomber. Mais Daniel restera en place. Quel encouragement, n'est-ce pas? Les royaumes de ce monde vont tomber, mais l'Église de Jésus-Christ va rester en place jusqu'à la fin. Donc, au début de ce chapitre, nous voyons ce qui semble être un échec cuisant pour Dieu. Mais nous voyons à la fin que c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais quelles sont les leçons pour les croyants en Jésus-Christ? 3 leçons pour nous avant de terminer. Premièrement, nous devons être avertis que nous aussi, nous sommes en exil. Nous aussi, nous sommes en exil. Tout comme Daniel et ses amis sont loin de leur pays, sont en exil, nous, en tant que chrétiens, nous sommes en exil aussi. 1 Pierre 2 dit que nous sommes étrangers et résidents temporaires dans ce monde. Nous ne sommes pas chez nous ici. Même si on a grandi toute notre vie en Belgique, en Europe, on n'est pas chez nous, parce qu'on appartient à quelqu'un d'autre. On appartient à Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde et dans une société qui ne reconnaissent pas que Jésus est le roi de l'univers. Et donc, il ne faut pas être surpris lorsqu'on se sent comme un intrus en tant que chrétien. Ça devrait nous réconforter. Si nous sommes ici en exil, cela ne nous choquera pas lorsqu'on nous rejette pour notre foi. Lorsqu'on se moque de nous parce qu'on va à l'église le dimanche ou parce qu'on veut parler de Jésus autour de nous. Lorsque nos amis nous appellent pasteur ou bonne sœur pour se moquer de nous. Ou lorsque tu perds ta place au boulot en gynécologie parce que tu refuses de prendre part à un avortement. Ce genre de choses, ça va arriver de plus en plus. Mais si nous savons déjà que nous ne sommes pas chez nous ici, mais que nous nous trouvons en exil, nous serons davantage en mesure de supporter les souffrances qui tombent sur nous. Et ça veut dire que nous devons résister à la pression de nous assimiler aux valeurs laïques de notre société. Tout comme pour Daniel, il y aura la pression de notre société de nous conformer. Peut-être pour nous, ce n'est pas les idoles de Babylone, mais c'est peut-être le dogme de la laïcité. La religion n'a aucune place dans le domaine public, nous dit-on. Et la tentation est là de laisser notre foi à la porte d'entrée de notre travail, n'est-ce pas? Et puis de la reprendre en même temps que notre manteau à la fin de la journée pour rentrer à la maison avec elle. Je ne dis pas qu'il est facile de parler haut et fort de sa foi en milieu professionnel en Belgique, mais si nous nous ressemblons à tous égards à nos collègues, mais s'ils ne savent pas que nous sommes croyants en Christ, nous courons le danger de nous assimiler à eux. Ça, c'est peut-être un danger pour vous. Vous dites oui à trop de choses de ce monde. Mais il faut reconnaître le danger inverse pour ceux qui sont en exil. C'est de dire non à trop de choses. L'autre danger, c'est de s'isoler du monde, se retirer du monde. Vous voyez que Daniel a pris une part active dans la société païenne, n'est-ce pas? Il a dit oui à beaucoup de choses avant de dire non au mets du roi. Et parfois, nous les chrétiens, nous on peut être tellement sûrs de notre identité qu'on ne veut pas même entrer en contact avec le monde qui est méchant. Et on est presque dans un terrier de lapin, nous les chrétiens. On est bien entre nous. On est loin du monde qui nous effraie. Et puis pour faire de l'évangélisation, il faut sortir de temps en temps du terrier pour aller dire coucou aux gens qui sont dans la vraie vie. Et on les invite à venir dans notre terrier. Et ils disent non merci, parce que c'est bizarre là-bas. Et on est surpris que l'évangélisation est très difficile. Pierre dit que nous devons vivre parmi les païens, parmi les non-chrétiens. Des vies tellement bonnes que les gens sachent regarder, observer nos bonnes œuvres. Est-ce que nos bonnes œuvres sont visibles par les non-chrétiens? Peut-être que ça, c'est un défi pour vous. Nous sommes en exil. Soyons conscients de cela, des dangers. Deuxième chose, soyons rassurés parce que Dieu est souverain. Soyons rassurés parce que Dieu est souverain. La vie chrétienne n'est pas facile. Nous sommes sous pression. Mais Dieu reste souverain. Il est roi. Nous allons le voir tout au long de ce livre. Il règne sur toutes choses. Il n'a pas perdu le contrôle dans son monde. Au début de ce chapitre, il semblait que Dieu était absent. Daniel et ses amis ont dû se demander où est Dieu dans cet exil. Mais trois fois dans ce passage, nous voyons Dieu à l'œuvre. Trois fois, Dieu donne quelque chose. Verset 2, c'est le Seigneur qui livre, qui donne entre les mains à Joachim, roi de Juda. C'est Dieu qui est souverain là-dessus. Verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Dieu donne une occasion favorable à Daniel. Verset 17, c'est Dieu qui donne à ces quatre jeunes gens de la science et l'intelligence. Partout dans ce chapitre, nous voyons Dieu à l'œuvre, même en exil. Dieu n'est pas en crise, Dieu est présent, même en exil. Et cela doit nous encourager. Nous n'avons pas la promesse que nous serons protégés, comme Daniel et ses amis, si nous restons fidèles à Jésus. La deuxième moitié de ce livre va nous montrer à quel point le peuple de Dieu est persécuté, même jusqu'à la mort. Mais nous savons que Dieu nous garde dans sa main. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Que peut faire le monde non-chrétien à un chrétien dont l'avenir éternel est certain? Nous devons prendre courage parce que Dieu aura le dernier mot. Nous voyons cela à maintes reprises dans ce chapitre, n'est-ce pas, avec l'histoire de la nourriture. Dieu fait que ceux qui ne mangent pas de la haute cuisine se retrouvent en meilleure forme que ceux qui ont mangé la meilleure nourriture. À la fin du chapitre, les ados judéens ont dépassé tous les Babyloniens par leur sagesse et intelligence. Et au verset 21, nous voyons que Daniel restera en place, même après la destruction du royaume de Babylone. Dieu aura toujours le dernier mot. Et n'est-ce pas aussi le cas lors de la mort de notre Sauveur sur la croix? Ça semble être un échec cuisant pour Dieu, le Fils de Dieu cloué sur une croix romaine en train de mourir, 3 jours dans le tombeau. Et puis 3 jours plus tard, il revient d'entre les morts pour ne plus jamais mourir, ayant pris le fardeau de nos péchés sur lui, ayant vaincu la mort à tout jamais. Dieu aura toujours le dernier mot. Et quelle est la conclusion de ce chapitre alors? Si nous sommes en exil, si Dieu est souverain, comment devons-nous vivre? Mais nous devons participer activement dans notre société, là où nous pouvons. Faire du bien autour de nous, mais ne pas nous assimiler à notre culture. Nous devons éviter la tentation de nous isoler du monde, mais aussi de nous compromettre. Et je me demande où est la tentation pour vous. Peut-être vous pouvez en parler après. Dans un contexte où on est méprisé peut-être, rejeté, fixons des limites comme Daniel a fait. Ne nous assimilons pas à ce monde. Et comment faire cela? Mais en sachant que Dieu règne, il est souverain, et il aura le dernier mot. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour le rappel de ce chapitre que nous trouvons effectivement en exil, loin de notre patrie céleste. Et nous te louons parce que cela nous aide à comprendre pourquoi c'est tellement difficile de vivre pour toi, le Dieu de l'univers, dans cette société. Que cela nous rassure, Seigneur. Mais en même temps, que tu nous gardes des dangers de nous isoler du monde ou de nous compromettre dans notre foi. Garde-nous de ces deux dangers. Et cela, sachant que tu es souverain, tu es celui qui gère l'histoire, qui maîtrise toutes choses et qui aura le dernier mot. Comme tu as eu le dernier mot avec Jésus, mort à la croix, mais ressuscité pour nos péchés. Et parce qu'un jour, il reviendra dans la gloire et nous régnerons éternellement avec lui. Garde-nous en lui jusqu'à ce jour. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.